Au deuxième jour d'une opération conjointe. Au deuxième jour d'une opération conjointe à grande échelle impliquant plusieurs unités militaires iraniennes à Semnan, au centre du pays, le drone intercepteur Karar a mené avec succès des opérations d'interception aérienne et détruit avec succès des cibles hostiles. Israël a tiré mercredi soir plusieurs roquettes depuis les hauteurs du Golan. La destroyer syrienne en a intercepté la majorité. Et quatre personnes ont perdu la vie lorsque des partisans du président sortant américain ont occupé le Capitole mercredi, selon la police de la ville de Washington. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Au deuxième jour d'une opération conjointe et à grande échelle impliquant plusieurs unités militaires iraniennes à Semnan, au centre du pays, le drone intercepteur Karar de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran a mené avec succès des opérations d'interception aérienne et détruit avec succès des cibles hostiles. Lors des exercices, l'armée iranienne a mené avec succès ce mercredi 6 janvier le tir du missile RR Azarash monté sur le drone Karar qui a détecté et détruit avec succès une cible de faible observabilité radar et depuis une haute altitude. La destruction de cibles de surface, des fortifications et des positions ennemies avec des drones Karar équipés de bombes MK-82 d'environ 227 kg ont également été menées avec succès à ce stade des manœuvres. Le contre-amiral Mahmoud Moussavi, chef adjoint des opérations et porte-parole des exercices, a déclaré à cette occasion que la surveillance continue des frontières à l'aide de drones de combat fait également partie des entraînements à grande échelle de drones de fabrication nationale. La surveillance des frontières du pays se fait aujourd'hui de manière très précise à l'aide des systèmes de drones équipés d'une variété de caméras de surveillance, de systèmes de reconnaissance et de collecte de données électroniques, a-t-il précisé. À ce stade des exercices, un certain nombre de drones de l'armée ont effectué avec succès des opérations de reconnaissance, détectant des cibles fixes et mobiles le long des frontières terrestres, a-t-il dit. Aujourd'hui, l'armée de la République islamique d'Iran est en mesure de répondre à toute agression de l'ennemi en utilisant divers types de drones de combat à longue portée et de viser les cibles dans un rayon de 2000 km. A fait savoir le chef adjoint des opérations de l'armée iranienne. L'Iran est équipé des derniers missiles air-surface et bombes ponctuelles. La défense anti-aérienne de l'armée syrienne a repoussé dans la nuit du 6 au 7 janvier une attaque israélienne contre les quartiers sud de Damas. Israël a tiré plusieurs roquettes depuis les hauteurs du Golan. La défense syrienne en a intercepté la majorité. Auparavant, des avions de chasse israéliens ont mené des frappes de missiles via l'espace aérien libanais ou jordanien sur des cibles dans l'est et le nord-ouest de la Syrie, mais la défense syrienne les ont également affrontées. Un responsable militaire proche du ministère syrien de la Défense a affirmé qu'Israël avait tiré mercredi à 23h10, heure syrienne, plusieurs roquettes depuis les hauteurs du Golan lors des frappes aériennes contre des cibles dans le sud de la Syrie auxquelles les systèmes de défense aérienne se sont opposés. Au Yémen, les combattants d'Asarallah ont abattu un drone Karayel dans la région d'Al-Muashama, au nord de la province d'Al-Jawf. Le drone est fabriqué par la Turquie et appartenait à l'armée saoudienne. Plus tôt, le 30 décembre 2019, Asarallah avait abattu un autre drone Karayel dans la zone de Salif de la province d'Al-Udaïda. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a écrit mercredi sur son compte Twitter que l'avion sans pilote appartenant à l'agresseur saoudien a été abattu par la défense antimissile du Yémen. Il a été visé alors qu'il menait une mission d'espionnage dans l'espace aérien du Yémen. Avec l'interception de ce drone saoudien, l'année de la défense aérienne commence bien. L'armée se réserve le droit d'abattre tout appareil qui violerait l'espace aérien du Yémen, a-t-il entériné. Ouvre maintenant la page de l'actualité africaine. Le président congolais et le ministre chinois des Affaires étrangères se sont entretenus mercredi 6 janvier à Kinshasa. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a espéré que le comité économique et commercial conjoint entre les deux pays serait réouvert dès que possible afin d'obtenir des résultats plus bénéfiques pour les deux parties dans le domaine de la coopération bilatérale. Au cours de cette visite, les deux pays ont signé un protocole d'entente pour la coopération sur l'initiative La Ceinture et la Route qui portera la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays à un niveau supérieur, comme l'a déclaré le ministre chinois Wang Yi, pour lequel la coopération entre la Chine et la RDC est une coopération sud-sud et une aide et un soutien mutuel entre amis. La RDC, qui assumera bientôt la présidence tournante de l'Union africaine, est disposée à participer activement à la coopération Afrique-Chine et invite davantage d'entreprises chinoises à investir dans le pays et à renforcer la coopération en matière d'infrastructures et dans d'autres domaines, a déclaré Tshisekedi. La Chine et l'Afrique forment une communauté de destin et le Forum sur la coopération sino-africaine, FCSA, a joué un rôle important pour favoriser les relations entre la Chine et l'Afrique ainsi que le développement des pays africains, a indiqué pour sa part le ministre chinois. La Chine salue le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine au 1er janvier de cette année. Elle soutient les efforts de l'Afrique pour se renforcer en encourageant l'unité et l'intégration. Elle espère que l'Afrique pourra jouer un rôle plus grand dans les affaires internationales, a-t-il poursuivi. Le chef de la diplomatie chinoise s'est également entretenu avec son homologue congolaise, Marie Tumbanzeza. Suite à ces discussions, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un protocole d'entente entre les deux gouvernements pour promouvoir ensemble la construction de l'ICR, l'initiative La Route et la Ceinture. Et pour fermer le journal, aux États-Unis, 4 personnes ont perdu la vie lorsque des partisans du président sortant Donald Trump ont occupé le Capitole mercredi, selon la police de la ville de Washington. L'une d'entre elles a été tuée par balle. Les 3 autres sont mortes en raison d'urgence médicale pendant les violentes manifestations au Capitole, a déclaré dans la soirée le chef du département de la police métropolitaine, Robert Conti, ajoutant que 52 personnes ont été arrêtées. Dans la nuit, la maire de Washington DC, Muriel Bowser, a prolongé l'urgence publique à 15 jours jusque lendemain de l'inauguration du président élu Joe Biden en réponse à l'occupation du Capitole. Mercredi après-midi, les partisans de Trump ont franchi les barrières pour envahir le Capitole, interrompant la certification des votes électoraux de l'élection présidentielle de 2020 et entraînant un verrouillage de la zone. La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle a été validée par le Congrès américain. La procédure de certification a repris après l'intrusion de partisans de Trump dans l'enceinte du Capitole. Le vice-président Mike Pence a déclaré que le Congrès avait confirmé le décompte des résultats des États du collège électoral et qu'une transition ordonnée aurait lieu le 20 janvier, même s'il est totalement en désaccord avec le résultat de l'élection. Joe Biden était qualifié de vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre contre le président sortant Donald Trump. Au total, 306 grands électeurs s'étaient prononcés en faveur du candidat démocrate Joe Biden contre 232 en faveur du président sortant Donald Trump. Auparavant, le président Trump avait appelé les membres républicains à renoncer à la certification des résultats. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique qui porte sur le même sujet. Coup d'État aux États-Unis, faire d'une pierre 2 coups. Presque un an après avoir cru décapiter pour de bon la résistance moyen-orientale, conduite par un général d'origine iranienne, mais désormais transfrontalier, l'Empire s'effondre sous les yeux terrifiés des foules d'affidés. Du Golfe Persique à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique du Sud, c'est une imposture dite « démocratie US » qui est partie en fumée dans la nuit de mercredi à jeudi 7 janvier. le Capitole a été pris d'assaut par une armée trampienne libre sur laquelle les forces de l'ordre fidèles au régime, ou selon des analystes alternatifs, État profond, ont tiré. Une femme, dont le parcours appelle le Tunisien Mohamed Bouazizi, a été tuée. Son corps gisait par terre sous les caméras du monde entier, en plein parlement, là où la plus soi-disant grande démocratie du monde enfante des actes guerriers, racistes et discriminatoires à longueur d'années. L'émeute du Capitole aura été un concentré de tous les projets issus des think tanks américains. Révolution de couleur, printemps arabe, pré-guerre anti-syrienne, anti-irakienne, anti-iranienne, anti-yéménite. Et il ne manque qu'un Kadhafi et le sort terrifiant qui lui a été réservé par Hillary Clinton, qui très effrontément a affirmé dans un tweet hier soir « Les pro-Trump sont des terroristes ». Mais chef terroriste ou chef de gang, ce sera à coup sûr Donald Trump qui fera le Kadhafi de l'histoire, à moins qu'il prenne la poutre des scampettes et, comme le roi d'Espagne, s'exile dans le golfe Persique aux Émirats, soit à la porte d'une résistance qui le tient, lui et Israël, source de ses malheurs, sur sa liste noire. Des échanges de feu en plein Parlement US entre policiers et meutiers, un engin explosif neutralisé en plein bâtiment, un état d'urgence déclaré sur l'ensemble du territoire américain, puis un couvre-feu à Washington. Un millier pro-Trump à la tête du Pentagone qui refuse de répondre à la demande du maire de la capitale d'appuyer la garde nationale déployée au Congrès et qui, pas plus tard qu'il y a une semaine, avait été poussé par le corps des généraux guerriers de l'US Army à revenir sur sa décision de rapatrier l'USS Nimitz du Moyen-Orient en pleine tension avec l'Iran. Tout ceci veut dire que le coup d'État déclenché par Trump a porté ses fruits, que le temple du libéralisme occidental du dollar roi a franchi un seuil irréversible et que les États-Unis s'écroulent de leur propre poids pour plonger dans une longue période de sédition, d'émeutes, de révoltes, de la faim et de guerre civile. Comme si des décennies de crimes commis à travers le monde venaient soudain à se retourner contre eux. Ce à quoi la bien-pensance US ne saurait répondre que par des guerres extraterritoriales. Cette guerre nourricière dont l'Amérique moribonde a un besoin urgent aura-t-elle lieu dans le golfe Persique? Une chose est sûre, si des milliards de pétrodollars saoudo-émiratis finissent par convaincre le putschiste Trump que ce serait la guerre avec l'Iran son ultime échappatoire, l'idée ne serait pas aussi mauvaise, car tout château de cartes s'effondre mieux sous l'effet d'un choc extérieur. Au moment où le Pentagone vit l'une des périodes les plus noires de son histoire, divisé, atomisé comme jamais et que le CENTCOM a perdu toute confiance en soi, une aventure militaire serait fatale à l'Empire. Mais au stade où en est l'Amérique en 2021, décapité, morcelé, déchiré, un peu à l'image de tous ces États-nations contre qui elle a agi depuis des décennies, cette guerre n'est plus improbable. Et dire que juste avant d'être expulsé de la Maison-Blanche, Trump le putschiste a toutes les chances de devenir Trump le kamikaze. Celui qui a fait sauter la méga-bombe au Moyen-Orient, quitte à faire balayer définitivement la présence militaire US de la région.